Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, y a-t-il un tournant liberticide en France ? La législation antiterroriste menace-t-elle les libertés publiques ? Cette question, nous la posions le 18 septembre 2014. La loi en discussion à l'époque avait été rédigée après l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. Parmi les nouveautés, il y avait la création d'un délit d'entreprise terroriste individuelle. Et pour les organisations de défense des droits de l'homme, c'était le premier pas vers un Patriot Act à la française. Depuis, la France a connu une série d'attentats, ceux de Paris en 2015, de Nice en 2016. Elle a modifié à plusieurs reprises sa législation sur le terrorisme, le renseignement, la sécurité publique. Elle a fait entrer dans le droit commun des dispositions qui relevaient auparavant de l'état d'urgence. À chaque fois, les partisans d'un durcissement des textes mettent en avant le droit à la sécurité, quand les opposants dénoncent des atteintes irréversibles à la liberté. C'est encore le cas aujourd'hui avec la loi anti-casseurs. Le texte a été adopté hier à l'Assemblée nationale à une large majorité. Alors s'il n'a pas pour objet les activités terroristes, puisqu'il vise ce texte à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, il s'inscrit dans une logique assez proche. Ainsi, les pouvoirs du préfet sont-ils encore renforcés ? Il pourra interdire, le cas échéant, à une personne de manifester. Si l'on est attaché aux libertés, estime l'avocat François Sureau, on ne peut pas l'admettre. Alors y a-t-il un tournant liberticide en France ? C'est la question que je vais poser ce soir à mes trois invités. Ce sont tous les trois députés. Yaël Braun-Pivet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de La République En Marche des Yvelines. Vous présidez la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous avez voté pour hier cette loi anti-casseurs, dont on redira l'intitulé exact dans un instant. LREM qui a voté pour 241 des députés. Il y a eu 50 abstentions dans votre groupe. Pour discuter avec vous, Hugo Bernalicis, bonsoir.
Bonsoir.
Député La France Insoumise. Soumise du Nord. Vous avez voté contre hier, comme l'ensemble des députés LFI. Et puis, troisième invité, Éric Diard, bonsoir.
Bonsoir.
Député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, vous êtes membre de la commission des lois. Vous avez voté pour, comme 96 autres députés, Les Républicains, sur un groupe qui en compte 104. Alors, avant d'aborder cette proposition de loi qui vise à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, je voudrais juste qu'on s'intéresse à un autre événement de l'actualité qui a un lien également avec les libertés publiques. Une des institutions garantes de ces libertés, c'est la presse. Il se trouve que lundi matin, il y a eu une tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart qui a été ordonnée par le parquet dans le cadre d'une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée en lien avec l'affaire Benalla. Je ne vais pas vous demander de commenter l'affaire Benalla, hein, c'est pas le but de l'émission, mais je voudrais savoir si, pour vous trois, cette tentative de perquisition, elle relève d'une atteinte à la liberté de la presse. Yaël Braun-Pivet.
Écoutez, je n'ai pas pour habitude, en ma qualité de présidente de la commission des lois et en ma qualité de députée, de commenter les affaires en cours. Et là, nous sommes dans un cadre judiciaire. Il y a une enquête préliminaire. Le parquet ordonne des actes d'enquête qui lui paraissent utiles. Voilà. Donc, je pense que il n'y a de cela, en tout cas, aucune espèce de critique à avoir. Il est dans son rôle. Après, Mediapart avait la possibilité de refuser cette perquisition. Et je pense pas qu'il faut voir plus loin, en tout cas en l'état, et tirer des conclusions hâtives sur cet événement qui n'est que une procédure parfaitement régulière.
Qui a quand même provoqué beaucoup d'inquiétudes de la part des sociétés de journalistes. Elles sont nombreuses à avoir signé un communiqué, dont celle de Radio France, disant justement s'inquiéter par rapport à ce genre de procédure. Pas plus de commentaires pour l'instant.
Mais non, pas plus, parce que personne n'est au-dessus des lois dans ce pays et les lois s'appliquent à tous. Donc elles encadrent les professions particulières pour lesquelles qui ont besoin d'une protection, type les journalistes, type les avocats, etc. Mais après, la loi s'applique à tous et c'est heureux.
Éric Diard, je ne sais pas si vous partagez le point de vue d'Yaël Braun-Pivet. En tout cas, est-ce que vous pouvez comprendre l'inquiétude qui peut être celle des journalistes, des rédactions, que de voir le parquet ordonner des perquisitions dans les locaux d'un journal avec manifestement pour intention d'essayer de repérer quelles sont les sources des journalistes qui ont mené des investigations dans l'affaire Benalla?
Écoutez, moi je pense que dans un premier temps, Mediapart a bien réagi. C'est-à-dire, ils ont invoqué la protection des sources, face à cette perquisition. Donc, si on veut persister, il faudra des manières plus coercitives. Je pense que Mediapart a pris la bonne décision. Je suis inquiet. Après, je vous dis, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je suis aussi membre de la commission des lois. Je suis avocat, donc je suis prudent là-dessus. Dans un premier temps, moi, je vous dis, je souscris quand même à Mediapart. Je pense qu'ils ont eu raison de s'opposer, dans un premier temps, à cette perquisition au nom de la protection des sources.
Ça vous fait d'ailleurs un point commun supplémentaire avec Yael Braun-Pivet, le fait d'être avocat, parce que c'est dans votre cas. Et donc, vous faites partie de la commission des lois. Hugo Bernalicis, j'ai vu que hier à l'Assemblée, c'est quelque chose qui a motivé une de vos interventions, justement, cette tentative de perquisition.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a un sujet dans ce pays sur l'indépendance du parquet. Il y a tellement un sujet que d'ailleurs La République En Marche elle-même voulait modifier dans le cadre de la réforme constitutionnelle le Conseil supérieur de la magistrature pour donner un peu plus de garantie d'indépendance. Moi, ça me semble être plutôt cosmétique que efficace, puisque pour avoir une réelle indépendance, il faudrait que le parquet gère lui-même sa propre carrière comme les magistrats du siège.
Et ouais, cette affaire de Mediapart, on verra ce qu'il en d'ailleurs, puisque la réforme institutionnelle est encore à venir.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, cette affaire de Mediapart, elle en dit long sur justement une forme de dérive qu'on voit de l'utilisation du parquet. Vous avez vu qu'il y a des nouvelles révélations depuis, au-delà de la perquisition, du fait que le signalement originel viendrait de Matignon et du responsable de directeur de cabinet de Matignon, qui aurait alerté la justice, même pas signalé au titre de l'article 40, mais alerté, ce qui aurait déclenché successivement jusqu'à cette perquisition, que Mediapart a pu refuser, heureusement, parce que normalement, en théorie, ils auraient dû demander au juge des libertés de la détention de pouvoir aller plus loin. Alors on se dit, on comprend pas. Soit ils font une perquisition pour aller jusqu'au bout, soit ils la font pas, ils la font pour qu'elle soit refusée. Tout ça est assez étrange pour une affaire effectivement qui touche au président de la République, au pouvoir, pour lequel il y a une commission d'enquête qui continue son travail au Sénat, ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'Assemblée nationale.
Et est-ce que vous y voyez une atteinte aux libertés, justement ?
Oui, j'y vois une atteinte aux libertés, j'y vois une forme de dérive autoritaire. Quand je vois que vous savez, dans ma question hier, je parlais à la fois des perquisitions chez Mediapart, des perquisitions à un certain nombre d'organisations politiques, dont la France Insoumise, mais aussi des perquisitions qui ont pu être faites, ou des visites domiciliaires qui ont pu être faites chez des gilets jaunes à 7h du matin. Moi, j'ai un cas dans le Nord d'un gilet jaune. On est débarqué chez lui à 7h du matin pour le placer en garde à vue, l'attraper, le mettre en garde à vue. Pourquoi ? Parce qu'il a filmé, il faisait un live sur Facebook, et dans ce live, on entend des manifestants insulter des policiers. Et donc on va chercher le type à 7h du matin qui faisait la vidéo sur Facebook. Enfin, je crois qu'on est dans une certaine forme de dérive. La loi effectivement s'applique à tout le monde, mais la loi a l'air plutôt mal faite et il serait temps de revenir là-dessus pour garantir les libertés individuelles, les droits de la défense et finalement la sûreté qui doit être le fondamental qu'on doit défendre ici.
Alors c'est vrai qu'on entend depuis quelque temps beaucoup parler de dérive liberticide. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble caractériser la période actuelle, Yael Braun-Pivet ?
Je voudrais d'abord rectifier l'intervention d'Hugo Bernalicis, qui a aussi un point commun avec nous puisqu'il est également membre de la commission des lois.
Ah bah oui.
C'est une réunion de la commission des lois informelle ce soir chez vous.
Ça vous fera gagner du temps, vous voyez.
Sur l'indépendance du parquet, je pense qu'effectivement, elle est inscrite dans la réforme constitutionnelle. Ce n'est pas du tout une lubie de La République En Marche. C'est quelque chose qui avait été voté également par la précédente mandature et sur lequel l'ensemble des groupes politiques s'entend, sur le fait qu'il faut effectivement rompre formellement le lien entre le parquet et le pouvoir politique. Cela étant dit, depuis plusieurs mandatures, les parquets sont parfaitement indépendants et aucun ministre de la Justice ne donne d'instructions individuelles. Donc il ne faut pas faire croire à vos auditeurs et aux citoyens que c'est le pouvoir politique qui donne des ordres au parquet dans des affaires individuelles. Ce n'est pas exact, cela ne correspond pas à la réalité. Le parquet est maître de ses enquêtes, de ses investigations et les conduit en toute indépendance. Il faut vraiment que ce soit clair parce que c'est la réalité et il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus.
Alors c'est une précision importante et on aura sans doute l'occasion, à la faveur de cette réforme institutionnelle, de revenir sur cette question de la nécessaire ou pas indépendance du parquet, parce que tout le monde d'ailleurs n'est pas forcément d'accord sur ce principe. Mais venons-en donc à cette loi, cette proposition de loi issue des rangs des Républicains, en l'occurrence du président des sénateurs LR Bruno Retailleau. Proposition de loi visant à renforcer, puisque c'est son intitulé désormais, et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. D'abord, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord tous les trois sur la base de vos désaccords, c'est-à-dire est-ce que vous diriez tous que oui, c'est une loi qui touche aux libertés publiques et qui les réduit. Elle touche aux libertés publiques, ça ce sont les termes de la rapporteure LREM Alice Toureau. Est-ce que c'est aussi votre avis, Régard ? Ensuite, vous nous direz si vous considérez que c'est nécessaire et suffisant.
Moi, sur cette loi, je pense que, pourtant je suis LR, elle est plutôt équilibrée, on a fait attention à la constitutionnalité, on le verra, mais le juge de cette loi sera le Conseil constitutionnel. C'est pas Hugo Bernal ici, c'est pas Éric Diard, ou c'est pas Yael Bonne-Pivé, on verra. Je pense que...
c'est la loi. Juste pour répondre à la première partie de ma question, c'est-à-dire est-ce que cette loi, vous êtes d'accord pour dire qu'elle va restreindre certaines libertés publiques, peut-être pour des raisons tout à fait pertinentes, mais qu'en tout cas, c'est un des premiers effets que ça va avoir.
Alors oui, elle va restreindre la liberté des groupuscules violents et des personnes qui veulent commettre des actes délictuels. Moi, cette loi, je le signale, de Bruno Retailleau, est antérieure au 1er décembre. Donc, je rappelle la loi El Khomri et les manifestations terrifiantes. Je rappelle le 1er mai, avec les Black Blocs, où on est passé très près, personne n'est mort, mais c'est une chance. Donc je rappelle, moi je défends la crise des Gilets jaunes, peut-être différemment d'Yael Bonne-Pivé, je pense qu'ils ont des revendications légitimes, mais il faut impérativement extraire les casseurs des manifestations.
Donc vous dites oui, elle va restreindre la liberté de certains individus. Yael Braun-Pivet, est-ce que c'est aussi comme ça que vous la présenteriez ?
Alors pas du tout, moi ça n'est pas ma vision. Moi je pense que c'est une loi qui va permettre aux citoyens de manifester librement ses opinions. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit les violences qui s'expriment dans les manifestations, et effectivement, ces violences ne sont pas récentes, on les voit s'exprimer depuis plusieurs années, elles font leur résultat très concret, c'est que des citoyens qui voudraient exprimer des opinions de façon tout à fait pacifique craignent de le faire parce que les manifestations aujourd'hui sont le théâtre de violences extrêmes. Et cette loi, elle est faite pour ça, pour permettre aux citoyens de manifester librement en empêchant ceux qui ne viennent pas manifester, ceux qui viennent casser, ceux qui viennent s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre, ceux qui viennent s'en prendre au magasin, ceux qui ne viennent pas manifester des opinions, mais manifester uniquement de la violence.
Hugo Bernalicis.
Écoutez, factuellement, cette loi va pouvoir restreindre la liberté individuelle d'un certain nombre d'individus par le biais de l'autorité préfectorale. C'est assez factuel. Alors certains pourront dire encadrer ou permettre des manifestations. Bon, tout ça, c'est de la rhétorique. Et je le comprends que chacun veuille défendre son point de vue. Moi, ce qui m'interpelle très clairement, c'est que aujourd'hui, on a des formules. L'article 2, qui est vraiment celui central sur l'interdiction de manifester, qui dit que dans son deuxième alinéa, lorsque par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique. Les termes ont leur importance. Ici, vous avez, la formule est un peu flou parce que on ne sait pas si c'est les agissements de l'individu qui sont violents ou si c'est les agissements de l'individu dans l'absolu, dans le cadre d'une manifestation violente. Ce qui permet d'englober dans un filet tout un tas de gens pour lesquels on pense qu'ils sont des casseurs, mais on n'en a pas les preuves. Et si on n'en a pas les preuves, mettre une mesure d'interdiction, de restriction de liberté individuelle pour quelqu'un pour lequel on n'a aucune preuve contre lui, alors oui, c'est très grave et c'est liberticide et je me range de l'avis de Maître Sureau qui l'a fait connaître.
Donc vous dites que ça ne concerne pas seulement quelques dizaines d'individus, mais potentiellement, ça peut considérer n'importe qui se serait retrouvé dans une manifestation qui aurait dégénéré, par exemple, et qui, du coup, pourrait être soumis à cette interdiction de manifester.
C'est le sens des propos du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, quand il s'adresse à Brut, où il explique que les gens qui vont dans des manifestations dans lesquelles il y a des violences sont complices de ces violences. Il l'a dit très clairement, bon, ce qui m'a amené à déposer plainte contre lui, d'ailleurs, pour une atteinte à l'exercice de la liberté de manifestation par une menace. Mais vraiment, soit on est d'avis de Christophe Castaner, on pense qu'il y a 150 à 300 personnes dans le pays qui sont des casseurs, et qu'on les connaît, puisque c'est ce qu'il dit, on les connaît, et à ce moment-là, on cherche à identifier les actes pour lesquels les poursuivre, on les poursuit et on fait confiance à la justice, soit on dit la justice fait pas son boulot, ce que j'ai entendu dans l'hémicycle, et on pense que c'est au préfet de prendre des mesures administratives, et on est dans autre chose que l'état de droit et la République.
Alors justement, qui est visé à travers cette loi et à travers notamment cet article 2 qui permet au préfet, le cas échéant, d'interdire à une personne de manifester? On évoquera tout à l'heure les garde-fous qui ont été imaginés pour qu'il y ait quand même un contrôle judiciaire. Mais Éric Diard, est-ce que c'est seulement quelques individus ou bien est-ce que c'est potentiellement n'importe qui a la volonté de manifester?
Je répète l'article 2. Les personnes qui appartiennent à des groupuscules violents. Donc c'est clair, elles sont fichées, elles sont identifiées. Elles n'ont peut-être pas commis d'actes, mais on les connaît. C'est les black box, c'est les ultra-gauche, ultra-droite, on les connaît. Ou des personnes qui ont déjà commis des actes délictuels. C'est clairement, je pense que c'est clair. Et ensuite, liberticide, moi je rappelle quand même, le Conseil d'État a toujours rappelé qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre des mesures à éviter que des infractions pénales ne soient commises. C'est le rôle de l'autorité administrative. En attendant les décisions judiciaires, je pense qu'il y a des filets de sécurité, 48 heures permettant de faire le référé liberté, et obligation de prendre ces mesures en attente d'une décision judiciaire.
Mais moi, si ce sont des personnes qui ont commis des actes délictueux, normalement ce sont des actes qui sont censés avoir été punis, en tout cas poursuivis en justice, pourquoi ajouter, alors je ne sais pas s'il faut parler de double peine, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas une sanction supplémentaire.
Mais la personne n'a peut-être pas été jugée encore. Elle est coupable, elle est en attente d'un jugement, et il est préférable que cette personne ne participe pas à la manifestation. Elle est présumée coupable, alors excusez-moi.
Présumée innocente.
Oui, présumée innocente. Enfin, quand même, oui allez, on est d'accord, on est présumée innocent, mais enfin, de manière préventive.
Et pour Alexandre Benalla est présumée innocente.
Oui, mais il faut préserver l'ordre public, c'est important.
Je sais pas, pardonnez-moi, juste, il y a beaucoup de bruit d'interférence, je ne sais pas ce qui vient de se passer d'un seul coup, on va essayer de régler ça. J'espère qu'en tout cas, ça ne perturbe pas trop l'écoute. Brune-Pivet.
Moi, je crois que vos auditeurs doivent bien comprendre notre système d'état de droit, justement. Nous avons d'un côté l'ordre administratif et de l'autre côté l'ordre judiciaire. L'ordre judiciaire a pour objet la répression d'infractions. Donc là, ça sera les mesures prises par un juge judiciaire. Mais à côté de cela, vous avez l'ordre administratif qui a un objet préventif. Et le préfet est en charge d'avoir cette action préventive pour maintenir l'ordre public sur un territoire donné. Il le fait tous les jours, le préfet. C'est dans ses missions, c'est dans ses fonctions. Il va pouvoir interdire quelqu'un de sortir du territoire, par exemple, pour l'empêcher de se rendre en Syrie, pour combattre. Le préfet a la possibilité de dire à un individu « Vous ne quittez pas le territoire français ». Donc ça, c'est bien une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il a la possibilité de prononcer un internement psychiatrique quand une personne manifeste des troubles très importants.
Oui, mais donc, ça, il y a eu Elbron.
Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est dans notre état de droit. On ne peut pas dire qu'une mesure administrative enfreint l'état de droit. C'est complètement faux.
J'entends bien, mais le fait qu'il s'agisse de mesures préventives qu'on a peut-être davantage vu ces dernières années dans le cadre des législations antiterroristes et que là, ça s'applique dans le cadre de manifestations qui n'ont rien à voir finalement avec la sécurité du pays.
Je suis pas d'accord.
Est-ce que vous comprenez que ce soit quelque chose qui puisse inquiéter quand même? Parce que on peut pas dire non plus qu'il y a aucun débat autour de ça. On cite François Sureau, mais la Ligue des droits de l'homme, c'est émue, elle aussi.
Mais c'est la sécurité du pays qui est en jeu. Je rejoins Éric Diard. Quand on voit les manifestations depuis des années, quand elles dégénèrent, c'est bien évidemment la sécurité de notre pays qui est en jeu. Et donc, oui, on comprend qu'il y a des réticences, et nous les premiers, bien évidemment, nous sommes extrêmement vigilants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obligé le préfet à avoir une motivation extrêmement précise de ses actes, que ses interdictions sont limitées dans le temps, qu'il y a un recours administratif avec un délai très court qui va permettre à la personne, si elle gagne devant le tribunal administratif, de manifester, puisque le recours va s'effectuer avant même la manifestation. Et donc tous ces encadrements montrent bien que nous avons bien conscience qu'il faut être très vigilant sur ces matières-là, mais pour autant, il faut que nous puissions mettre à l'écart un certain nombre d'individus qui sont repérés comme étant dangereux pour la sécurité du pays, et je n'ai pas peur de le dire.
Quelques individus, quelques dizaines d'individus qui font partie de groupuscules, comme vous le disiez tout à l'heure, Éric Diard, comme les Black Blocs, peuvent mettre en cause la sécurité du pays ?
La sécurité du pays, quand vous voyez la sécurité du pays, une manifestation...
Enfin, casser des vitrines, je dis pas que c'est bien, mais enfin, c'est pas non plus... ça met pas en danger la République.
Enfin, quand même, le 1er décembre, vous avez vu l'Arc de Triomphe, vous avez vu quand même... Il y a des policiers ou des manifestants qui ont frôlé la mort. Donc, c'est pas la sécurité du pays, mais c'est la sécurité des Français. Et pour moi, excusez-moi, la sécurité des Français, c'est la sécurité du pays.
Hugo Bernalicis.
Écoutez, moi, il y a des choses que j'entends que je ne peux pas entendre... L'autorité judiciaire n'est pas qu'une autorité répressive. C'est au titre de l'article 66 de notre Constitution, actuellement en vigueur, bien que je veuille passer une 6e République, c'est la garante des libertés individuelles. C'est d'abord l'autorité judiciaire. Et il y a un débat dans ce pays sur le fait qu'aujourd'hui, l'autorité administrative, de plus en plus, le juge administratif en l'occurrence, soit amené à devoir se prononcer sur des libertés individuelles. C'était dit en droit des étrangers. Mais c'est pas le seul cas de figure. C'est pour ça que dans un certain nombre de mesures, y compris quand elles sont administratives, la précaution qui a été prise, c'est pas de mettre le juge administratif, c'est de mettre le juge des libertés et de la détention. Qui est un juge judiciaire. Qui est un juge du siège. Là, c'est pas la précaution qui a été prise. Mais parce qu'il y a une certaine forme de cohérence. Mais à un moment donné, moi, je veux bien tout entendre. Mais on explique tout à l'heure, hein, présomption d'innocence, présomption de culpabilité, les gens qui pourraient commettre des actes, etc. Bon. On est quand même dans un pays avec un régime de la preuve. Soit vous avez commis des actes, vous avez commis un délit et on vous poursuit. Soit on ne vous poursuit pas. Et donc, du coup, cette notion de maintien de l'ordre vient faire en sorte que demain, on va pouvoir interdire de manifester des gens qui n'ont rien fait, dont on pense qu'ils pourraient faire quelque chose, mais pour lesquels ils n'ont, pour lesquels il y a rien sur le papier. D'ailleurs, il y a déjà aujourd'hui énormément d'interpellations qui sont faites, de personnes qui sont mises en garde à vue et qui sont relâchées par l'autorité judiciaire parce qu'il n'y a aucune preuve qui est amenée des délits qu'ils auraient pu commettre.
Ce qui prouve quand même que du coup, il y a des garde-fous. Enfin, en tout cas, il y a moyen de se retourner contre des décisions du pouvoir administratif.
Oui, j'espère en tout cas que s'il y a des interdictions qui sont prononcées au titre de cette loi, elles seront très faibles à être maintenues et que ce sera parce qu'il y aura des preuves qui sont amenées. Mais s'il y a des preuves d'amener une arme par destination, c'est déjà un délit de venir dans une manifestation avec une arme par destination. Pourquoi on ne fait pas confiance à l'autorité judiciaire? Pourquoi on ne fait pas confiance à la justice pour faire une comparution immédiate, juger la personne, etc. Ce qui se fait déjà énormément, d'ailleurs, les tribunaux sont encombrés par les comparutions immédiates qui découlent des gilets jaunes. Donc moi, je ne sais pas ce qu'on est en train de créer comme machin, mais ce n'est pas quelque chose qui ressemble à l'esprit qu'on se fait d'un état de droit où l'article 66 de la Constitution garantit que c'est l'autorité judiciaire qui est garante des libertés individuelles. Et je vais vous dire une chose de plus. On a des services de renseignement dans ce pays. Quand on a voulu interpeller 6 personnes de la mouvance d'extrême droite suite à la manifestation du 1er décembre, on a mis en branle la DGSI pour fournir des éléments de preuve à l'autorité judiciaire. Du coup, les personnes ont été attrapées, elles ont été mises en détention provisoire d'ici leur jugement, et actuellement, elles sont incarcérées, et on attend le jugement. Donc quand on veut attraper les gens, on sait le faire dans ce pays. Donc soit on dit qu'on met les moyens d'identification pour amener les preuves, et là, d'accord, et on met en place l'autorité judiciaire, on met en branle l'autorité judiciaire, soit on fait des machins comme ça qui sont effectivement attentatoires aux libertés individuelles.
Yael Braun-Pivet.
Mais encore une fois, moi je rappelle que l'autorité administrative est là pour exercer une action préventive des troubles à l'ordre public. Donc bien évidemment, lorsqu'il y a des éléments suffisamment conséquents pour apporter la preuve qu'une infraction est constituée, on passe en procédure judiciaire. Mais c'est ce qui fonctionne de tout le temps, sur tous les domaines. Il ne faut pas mettre en concurrence ces deux autorités. Elles s'adressent à des cas différents, à des temporalités différentes. Et pour reprendre Hugo Bernalicis, le juge judiciaire est gardien des libertés, mais depuis très longtemps, il a été jugé qu'il est gardien des mesures privatives de liberté, mais pour tout ce qui est mesures restrictives de liberté, le juge administratif est parfaitement compétent. Et ça, c'est constitutionnel, c'est jugé depuis pas la nuit des temps, mais pas loin.
Je voudrais vous citer un extrait d'une interview qui a été publiée il y a quelques jours de cela dans le magazine Les Inrocs, qui est signée de la politologue Vanessa Codaccioni. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a travaillé notamment sur la question de l'état d'urgence. Elle avait fait un livre consacré à l'état d'urgence, en particulier pendant la guerre d'Algérie. Elle dit ceci: l'antiterrorisme contamine l'ensemble de l'appareil répressif. L'antiterrorisme, c'est de la répression avant tout préventive. Désormais, il s'agit d'empêcher des passages à l'acte politique ou à l'acte militant. Est-ce qu'on n'est quand même pas aujourd'hui dans ce mouvement de fond depuis quelques années, notamment depuis les attentats de 2015, où il y a justement cette orientation vers peut-être davantage de justice préventive qui se justifie, pourquoi pas, mais en tout cas il y a bien ce mouvement-là, Éric Diard.
L'antiterrorisme, comme vous dites, a permis à ce que 20 attentats ne se produisent pas en 2017. Ce sont des chiffres officiels. 5 attentats ne se produisent pas en 2018. Donc moi, je voudrais dire tout mon respect sur les services du renseignement, renseignement territorial, la DGSI, qui a besoin d'arsenal pour anticiper et pour faire face à la menace terroriste. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus en état d'urgence qu'elle n'existe pas. L'état d'urgence, c'est temporaire. Actuellement, la menace terroriste est très forte dans notre pays. Je fais pas référence, il y a un mois, encore un peu plus, à l'attentat de Strasbourg. Nous attendons, malheureusement, et nous savons pas quand, le prochain attentat. Dire qu'il y en aura un prochain, c'est pas être un visionnaire ou un paranoïaque.
Sauf qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui faisaient partie de l'état d'urgence, qui sont entrées dans le droit commun, justement, à la faveur de la fin de l'état d'urgence. Donc aujourd'hui, ces mesures, elles sont plus provisoires, elles sont permanentes. Est-ce que, disent aussi un certain nombre d'organisations, c'est de dire que plus on va vers des mesures qui limitent les libertés publiques, plus on va dans un mouvement irréversible. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Ensuite, quand ça ira mieux, parce qu'il faut quand même espérer qu'un jour la menace diminue, ça sera compliqué de revenir en arrière.
Vous parlez de la loi du 30 octobre 2017, mais je vous donne un exemple. Ça a permis justement au préfet de lutter contre les mouvances terroristes et qui leur attribuait un certain nombre de compétences, mais sur autorisation d'une autorité judiciaire. Donc il y a quand même le matelas ou le filet de sécurité de l'autorité judiciaire. Donc il peut ordonner des visites en tout lieu sur lequel il est permis de croire à des raisons sérieuses qu'il y a une personne suspectée de terrorisme sous l'autorité judiciaire. Donc,
mais que je comprenne bien votre point de vue, Éric Diard, c'est-à-dire est-ce que vous dites finalement ça vaut quand même le coup aussi d'avoir adopté ces législations, quitte à perdre un peu peut-être de liberté publique parce qu'on y a gagné en sécurité, notamment sur des questions d'antiterrorisme, ou bien est-ce que vous dites oui, on a des mesures plus sécuritaires mais qui n'ont en rien entamé nos libertés publiques?
Moi, je dis que nous avons des mesures sécuritaires qui n'ont rien entamé nos libertés publiques. Quand on prend des dispositions pour fermer des lieux de culte dangereux où il y a une radicalisation, je ne sens pas ma liberté menacée.
Est-ce que vous êtes d'accord, j'imagine que pas tout à fait avec ça, Hugo Bernal, ici, c'est tout à fait, réaction ensuite de Yael Brolpli.
Ce mouvement général qu'on appelle l'effet cliqué en matière pénale, c'est qu'on augmente systématiquement les peines et il se mesure pas que en matière d'antiterrorisme, mais c'est très clair que la législation en matière d'antiterrorisme et de criminalité organisée a contaminé tout le reste du droit. Et d'ailleurs, dans le projet de loi justice qu'on est en train de finir d'examiner, probablement en lecture définitive la semaine prochaine, montre ça, c'est que les techniques spéciales d'enquête qui au départ ont été mises en œuvre, c'est-à-dire poste de micro, de balises GPS, les MC catchers pour capter les données à des points de connexion, qui étaient au départ réservés à la criminalité organisée et au terrorisme, demain sont étendus à tous les délits de 3 ans d'emprisonnement ou plus pour tout ce qui est toutes ces techniques spéciales d'enquête, et à tout délit qui est puni d'une peine d'emprisonnement pour les enquêtes anonymes. C'est bien que finalement ça finit par s'appliquer à tout le monde. Et au départ, on dit ça, on met en comme garantie le juge des libertés et de la détention. Mais il y avait déjà de la lutte antiterroriste avant le projet de loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme. Il y avait déjà de la lutte antiterroriste avant 2014, avant les premières lois qui ont été plus sécuritaires. Comment ça se passait? C'est l'autorité judiciaire, et précisément un juge d'instruction, qui avait la capacité de mettre en œuvre toutes ces mesures. Ce qu'on est en train de faire, c'est de les donner aux mains du parquet, avec moins de garanties. C'est ça ce mouvement général qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on manque de juges d'instruction dans le pays, parce qu'on manque de parquetiers dans le pays, parce que on ne veut pas mettre les moyens là où on en a besoin. C'est ça la réalité, et que finalement, on en finit par faire des simplicités, et pas des simplifications, des simplicités administratives qui deviennent bancales vis-à-vis des libertés individuelles. Et je sais bien que le Conseil constitutionnel valide tout ça et que le Conseil constitutionnel va probablement valider cette proposition de loi interdisant les manifestations parce qu'il y a le recours possible du juge des référés.
Non mais
c'est le juge des référés, j'espère qu'il le censurera, mais honnêtement, vu le mouvement général, effectivement, le Conseil constitutionnel participe aussi de cet effet cliqué où finalement les garanties des libertés individuelles sont plus l'alpha et l'oméga. Et le juge des libertés de la détention, rappelons-le, est un juge qui dispose d'extrêmement peu de moyens et en tout cas pas de moyens d'enquête, ce qui le rend être un juge qui va blanchir des décisions administratives.
Il m'a semblé vous entendre acquiescer, Yael Braun-Pivet, tout à l'heure, quand je citais Vanessa Codaccioni, disant « l'antiterrorisme contamine l'ensemble de l'appareil répressif ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Non, j'acquiesçais juste parce que je la connaissais, en fait,
d'accord.
C'est tout.
Et comment, en tout cas, est-ce qu'on répond à cette inquiétude-là ? C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de lois qui ont un but très spécifique, avec un vrai danger, c'est le terrorisme, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne se diffuse pas à l'ensemble des autres délits ? Et est-ce qu'il n'y a pas, question subsidiaire, le risque de ne pas pouvoir revenir en arrière ? Parce qu'on sait bien que c'est, je ne dis pas que c'est facile de prendre des mesures sécuritaires, mais ensuite, quand ça va mieux, revenir en arrière, c'est en général beaucoup plus compliqué. En tout cas, on l'observe beaucoup moins dans l'histoire judiciaire.
Alors moi, je crois profondément que le droit est protecteur. Vous savez, dans une société, le droit, c'est ce qui va fixer un cadre. Justement, dans lequel, après, les personnes qui doivent intervenir doivent exercer leur activité. Et avant la législation antiterroriste, il n'y avait justement pas de cadre. La menace existait et les services, justement, fonctionnaient un petit peu dans un cadre allégal et réclamer ce cadre juridique pour dire, en nous disant, ce cadre est protecteur. Et donc, le droit, après, doit s'adapter à la menace, le droit doit être mouvant, s'adapter à la société et évoluer. Donc ça, moi, ça ne me fait pas peur par principe.
Le droit est protecteur, pardonnez-moi, tout dépend entre les mains de qui on le met. Évidemment, vous savez qui je vais citer, c'est un de vos collègues, député centriste Charles de Courson, qui a beaucoup marqué la semaine dernière lors de son intervention, disant notamment à ses collègues, donc à vous, qui êtes tous les trois députés, réveillez-vous parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues, il disait qu'on se croirait revenu au régime de Vichy.
Mais justement, dans notre texte et dans tous les textes que l'on a votés, dont la loi qui nous a permis de sortir de l'état d'urgence, on a mis de très nombreuses garanties en assortissant à chaque fois chaque mesure de conditions d'exercice, de droits de recours, de contrôle parlementaire très suivi, que ce soit sur la loi de l'état d'urgence, c'est moi qui l'exerce, ce contrôle parlementaire. Sur cette loi, on a également mis un contrôle parlementaire et l'ensemble de ces contrôles permet justement de s'assurer que ces mesures ne sont pas dévoyées. Maintenant, je vais être très franche, si demain on a un gouvernement extrême qui vient au pouvoir, je pense qu'il sera très libre de prendre un certain nombre de textes qui seront vraiment liberticides. Et là, on pourrait être inquiet. Mais franchement, moi, je suis, et je l'ai dit, assez fière du travail qu'on a effectué sur ce texte-là, aussi fière du travail qu'on a effectué sur la loi SILT, parce qu'à chaque fois, nous avons pris en compte...
La loi SILT, pardonnez-moi.
Donc la loi SILT, c'est la loi intérieure qui nous a permis de sortir de l'état d'urgence. Et qui, contrairement à ce qu'on pense, ne transpose aucune mesure de l'état d'urgence dans notre droit commun. Chaque mesure est modifiée pour justement apporter plus de garanties, considérant que justement, quand c'est dans le droit commun, il faut garantir les libertés individuelles et nous y veillons, mais jour après jour, quotidiennement, et c'est au cœur de nos préoccupations, n'en doutez pas.
Éric Diard, je rappelle, député Les Républicains. Alors, si j'ai bien suivi ce que dit Laurent Wauquiez ou ce qu'a pu dire par exemple Éric Ciotti, alors qu'ils ont, s'agissant d'Éric Ciotti, voté aussi pour cette loi anti-casseurs, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, tout en regrettant que le texte initial ait été un petit peu modifié. Il y avait notamment par exemple l'idée de créer des fichiers de casseurs, l'idée aussi de pouvoir organiser en fait des zones de protection, on va dire, autour des manifestations. Et plus généralement, les Républicains considèrent que on ne va peut-être pas assez loin dans les questions de sécurité. Est-ce que c'est aussi vous un point de vue que vous partagez, ou bien alors est-ce que vous seriez une sorte de frondeur au sein de votre famille politique?
Non, c'est sur la souffrance animale qu'Éric va fronder.
Sur le les différences sont faibles. Que vous soyez sur un fichier casseur ou un fichier des personnes recherchées, vous êtes toujours sur un fichier. Donc vous voyez, la nuance, elle existe. On pouvait demander, sur l'article 1, il y avait une nuance, sur l'article 2, il n'y avait pas de nuance, sur l'article 6, c'était satisfait par la loi. Donc vous voyez, les nuances étaient faibles. On verra ce que dira le Sénat. Mais moi, je m'inscris en faux contre ce que dit mon collègue Charles-Amédée de Courson. On ne peut pas dire, on verra ce qui se passera plus tard. si il y a un gouvernement d'extrême quelque chose qui arrive au pouvoir, ils seront majoritaires, ils feront une loi, et là, le juge de paix, je le dis encore, ça sera le Conseil constitutionnel. On peut pas, c'est pas cette loi qui prépare des lois extrêmes, pas du tout.
Oui, mais dans la mesure où une loi est toujours liée à la précédente, c'est-à-dire on la modifie progressivement, peut-être que si un gouvernement d'extrême droite arrive au pouvoir, il aura moins de chemin à faire pour faire quelque chose qui soit vraiment liberticide que si toutes ces législations n'avaient pas été prises depuis des années.
Quoi. Il n'y a pas de loi progressive. Quand en 81 la gauche est arrivée, les lois étaient complètement différentes.
Les lois antiterroristes quand même.
Oui, non, mais ce que je ne souhaite pas, j'ai l'immodestie de croire que si les insoumis, ce que je ne souhaite pas, arrivent au pouvoir, ils feront des lois bien différentes que les lois que nous avons actuellement. Et c'est pas parce qu'il y aura une graduation de la loi contre le terrorisme. Mais moi, par contre, je ne partage pas votre avis. Vous dites, demain, on va vers des beaux jours. Moi, je vous dis.
Ah non, j'ai pas dit ça. Ah,
vous dites, si on va vers des beaux jours. Moi, cet horizon, je vous le dis, je ne le vois pas. Je suis.
On peut l'espérer, en tout cas.
Je suis rapporteur que la menace terroriste va diminuer. Non. Je suis rapporteur des services publics face à la radicalisation. Je peux vous dire que la radicalisation, c'est quelque chose qui est très important dans notre pays. Qui est l'État islamique ou pas l'État islamique, la radicalisation et le terrorisme a pénétré les pans entiers de notre société. On est en train de réagir, mais j'ai peur que parfois ça soit trop tard.
Tiens, puisque vous avez évoqué l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir de la France insoumise, Hugo Bernal ici, si LFI arrive au pouvoir, qu'est-ce que vous faites justement de toutes ces législations que vous combattez ?
Eh bien, écoutez, on va revenir en arrière, on va abroger beaucoup de dispositions et renforcer un certain nombre de pouvoirs pour, par exemple, le juge d'instruction. Aujourd'hui, on se demande à quoi sert un juge d'instruction tant tous ses prérogatives sont données aux magistrats du parquet. Finalement, si on va plutôt lui donner des affaires un peu plus sensibles, ce qui reste, ce que le parquet... Bon, on veut pas traiter trop rapidement et veut donner un juge d'instruction pour donner d'autres garanties. Bon, on en est là quand même, c'est ça la réalité. Donc il y a plein de choses à faire en la matière, mais vous savez ce qui est dommage, c'est que le texte a changé d'intitulé. Au départ, c'était sur les violences en manifestation. Et on aurait pu y intégrer les violences policières aussi qui existent. C'est pas les nier, c'est pas la généralité, c'est pas la norme heureusement dans notre police qui est je le crois une police républicaine, mais elles existent. Et on n'a rien fait là-dessus.
C'est vraiment stupéfiant. Elle est républicaine, je vois pas pourquoi vous dites je le crois comme si c'était une croyance, c'est un fait. Notre police est républicaine.
Son usage n'est pas toujours républicain. L'usage qui est fait par le ministre de l'Intérieur n'est pas toujours un usage républicain. Il y a une stratégie de la tension, il y a une stratégie de l'escalade. Et c'est pourquoi, en matière de maintien de l'ordre, par exemple, nous sommes plutôt favorables à nous inspirer d'un certain nombre de pays du Nord sur les stratégies de désescalade, qui ont des résultats bien plus probants en nombre de blessés, que ce soit du côté manifestant ou que ce soit du côté policier. Parce que je le dis aujourd'hui, le maintien de l'ordre plus mobile, hein, comme on le dit, pour faire bien, finalement, met en danger les policiers en les mettant, et les gendarmes qui font ces opérations, parce qu'on se retrouve avec des plus petits groupes qui sont en infériorité numérique par rapport aux manifestants et isolés, et ça c'est dramatique. Et donc on peut pas se satisfaire des 1800 blessés parmi les manifestants et 1000 blessés parmi les policiers. On peut pas se satisfaire de cette situation. Et oui, on ferait différemment. Et moi je vous le dis très, très tranquillement, hein, demain on arrive au pouvoir, on saurait gérer la situation. D'une part parce que il n'y a pas d'ordre public sans justice sociale. Donc d'abord faisons de la justice sociale et on verra que les problèmes d'ordre public vont se régler aussi. Par voie de conséquence.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur sur Facebook, a écrit ceci en début de semaine. Manifester est une liberté fondamentale en démocratie. Le droit de manifester est sain, vital pour la République. Cette loi ne vise pas à empêcher. Au contraire, elle vise à protéger les manifestations. Mais Yael Braun-Pivet, est-ce qu'il n'y a pas certains manifestants qui hésitent à les manifester? Pas seulement parce qu'il peut y avoir des casseurs du côté des manifestants, mais parce qu'il peut aussi y avoir des violences policières. Et est-ce que la liberté de manifester, elle ne passe pas aussi par une autre façon de maintenir l'ordre?
Il y a une chose. Nous pouvons et nous devons collectivement le faire, c'est-à-dire regretter très fortement l'ensemble des blessés lors des manifestations, de quelque côté qu'ils se trouvent. Maintenant, ce que je pense, c'est que les forces de l'ordre se retrouvent face à des manifestations qui sont de plus en plus violentes. Et elles doivent exercer la mission première qui est la leur, préserver la liberté de manifestation, préserver l'ordre public. Et donc, elles exercent des moyens proportionnés en fonction de la violence qui s'exprime. Nous avons vu qu'il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Chacune de ces plaintes est instruite par l'IGPN. et nous pourrons voir dossier par dossier ce qui s'est passé et s'il y a des responsabilités à faire valoir et à mettre en cause. Mais je veux vraiment rappeler que nos forces de l'ordre sont vraiment dans l'exercice entier de leur mission et qu'elles sont très dévouées à cela et nous ne pouvons que les en remercier.
Mais ce sera la conclusion évidemment provisoire de ce débat du jour. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé, de vous être écouté parler. Je le précise parce que quand il y a des politiques, j'ai toujours peur un petit peu que ça soit la foire d'empoigne et qu'on ne comprenne pas grand-chose. Là, vous avez vraiment joué le jeu. Merci beaucoup. Yael Braun-Pivet de La République En Marche, Hugo Bernalicis de La France
Merci
Insoumise et Éric Diard
Merci.
Des Républicains. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Ledoux, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulcer, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre et Legras avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.